Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices. Vous êtes en compagnie d'Émilien Roscanou pour la photomédia sur les ondes de choc.ca. Ce soir, nous avons une équipe un peu réduite, mais pas moins allumée. Nous sommes en compagnie de notre chère amie Camila Rodriguez-Ca.
Salut!
Et nous avons une nouvelle recrue, Frédéric, qui ce soir va être avec nous pour une chronique. Bonsoir.
Allô.
Donc, ce soir, on va vous parler de l'éléphant dans la pièce, l'éléphant blond de l'autre côté de la frontière, qui, n'est pas encore de l'autre côté d'un mur, mais ça pourrait venir après le mur entre la frontière avec le Mexique, pourrait décider d'aller au nord. Donc, on va commencer tout de suite avec une chronique de notre cher recrue Frédéric, qui s'est penché sur la première semaine de la présidence de Donald Trump.
Oui, en fait, le matériel là-dessus, ça manque pas. Il y en a vraiment beaucoup. Ce 20 janvier, donc, il y a eu l'investiture de Donald Trump, comme tout le monde sait, qui est le 45e président américain. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais je vais me pencher plus particulièrement sur l'aspect médiatique de tout ce phénomène Trump. Donc.
C'est l'aspect qui nous intéresse le plus. Puis ceux qui sont abonnés à l'émission savent que Trump, c'est quand même un de nos sujets de prédilection des dernières semaines.
Ouais.
Et on en a encore pour 4 ans.
Oui, exactement. Je pense qu'on va pas manquer de contenu là-dessus pour les 4 prochaines années. Donc, en gros, pour commencer, ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des concepts de l'ère post-vérité, les fausses nouvelles, les faits alternatifs, les choses comme ça, puis toute l'importance du fact-checking, là, c'est-à-dire vérifier ses sources. Tu sais, qui a pas déjà vu passer sur Facebook un canular genre « Ah, oh, le comédien X est mort ce matin d'une crise cardiaque à son domicile, puis 30 minutes après, t'avais la mort du comédien X en question et démenti par sa famille et ses proches. »
Et par le comédien.
Et c'est ça, exactement.
Ça arrive même aux politiciens, ça arrive...
Il y avait tout le temps.
Le site du Devoir avait été piraté même une fois. C'était, ouais. Ils avaient annoncé la mort de Jean Charest dans le temps.
Ça, il y en a eu beaucoup. Fait qu'on en a toutes vu. Les hoax là, qu'on appelle de ce genre sont quand même faciles à démentir puis rapides à démonter parce que c'est très facile à vérifier. Hein, comme on dit, le comédien lui-même sort 30 minutes après. Mais c'est pas le cas de toutes les fausses informations qui circulent sur le web. Et il y en a vraiment beaucoup, ça on peut le dire. Donc, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont des fausses nouvelles qui peuvent faire un long bout de chemin avant d'être comme dépistées. Si on veut, puis encore faut-il qu'elles le soient parce qu'elles le sont pas tout le temps. Sans compter qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent les croire et qui font pas forcément toujours leur fact-checking, comme on dit. Puis encore une fois, je pense que quand je dis ça, on peut en reconnaître ou on peut penser 2 ou 3 personnes comme ça dans notre entourage. En tout cas, moi, j'en ai, là. C'est difficile.
Oui.
Faut vérifier pour eux quasiment. Puis des fois, tu dis, ah, t'as-tu vérifié tes sources? Non. Ouais,
c'est ça, un site obscur qui annonce la Troisième Guerre mondiale
exactement.
Pour demain. Là,
et les conspirationnistes de ce monde et tout ça. Donc,
on en connaît.
C'est dur. Fait que, en ce qui a trait au phénomène Trump plus particulièrement, je pense que je peux affirmer sans hésiter que si on avait à décerner un trophée pour le nombre de fausses affirmations débitées à la minute, s'il ne gagne pas la Palme d'Or, c'est pas loin. Mm-hmm. Ça, on a pu le voir. Écoute, lui puis son équipe, ils ont enchaîné les vérités alternatives puis les affirmations sans fondement depuis le début de la campagne électorale. Puis, depuis une semaine, depuis son investiture, on peut voir que ça n'a pas vraiment l'air de vouloir changer. Fait qu'on est encore pogné avec ça.
Oui, puis justement, il y a eu plein de comptes Twitter d'agences américaines, états-uniennes, pardon, qui ont été complètement fermées. Mm-hmm. Il y a aussi des parties du site Internet de la Maison-Blanche où il y avait des mentions, par exemple, des changements climatiques qui ont été complètement effacés. Mm-hmm. La version en espagnol du site de la Maison-Blanche n'est plus accessible.
Quelle ironie!
Il y avait eu quelques gens qui avaient tenté de résister encore quelques temps, mm-hmm. puis qui avaient publié sur leur Twitter, mais bon... C'est tout un contrôle qu'il a maintenant.
Ouais, très fin, c'est ça. Fait que pour donner un exemple, par exemple, de ces fausses affirmations-là que de l'équipe Trump, Sean Spicer, qui est le nouveau press secretary de Trump, donc son porte-parole au niveau des médias, en parlant de l'investiture de Trump, il a affirmé, et je cite, « Il s'agissait du plus grand nombre jamais vu de personnes ayant assisté à une investiture présidentielle, point à la ligne. » Or, en comparant les photos des investitures des différents présidents, on voit juste en regardant ça que c'est totalement faux. On n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça, là. Ensuite, sa conseillère de Trump, Kellyanne Conway, vient en rajouter une bonne couche, là, beurrée bien épais, en visitant des plateaux télévisés pour insister sur la taille réelle de la foule. Donc, j'insiste sur les guillemets sur taille réelle parce que on sait que c'est faux. Ça a donné un échange assez musclé, entre autres, entre elle, donc la conseillère Kellyanne Conway, et le journaliste Chuck Todd sur les ondes de NBC. Donc, j'ai lu un article du journal Le Monde qui cite une partie de cet échange-là. Je vous le partage parce que c'est assez intéressant.
Attachez vos tucs.
Ouais, alors... Madame Conway qui dit « On ne peut jamais vraiment quantifier une foule. Nous savons tous cela. Vous pouvez vous moquer autant que vous voulez. Je pense que cela symbolise la façon dont nous sommes traités par la presse. Ne surdramatisez pas, Chuck. Vous dites des choses fausses et notre porte-parole, Sean Spicer, a donné des faits alternatifs. » Ce à quoi le journaliste, exaspéré évidemment, a répondu « Attendez une minute. Des faits alternatifs. Des faits alternatifs. » 4 des 5 faits qu'il a dit sont tout simplement faux. Les faits alternatifs ne sont pas des faits, ce sont des mensonges.
Camilla, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben, c'est juste que j'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté, qu'on peut être face à la plus grande foule jamais enregistrée et être dans l'incapacité de calculer exactement combien de personnes il y a dans une foule. Il faut s'entendre.
Oui, ben, peut-être la plus grande foule jamais enregistrée par le grand égo de Donald Trump.
Exactement.
Ça doit être ça.
Et son équipe en arrière qui essaye de le booster le mieux qu'il peut, en tout cas.
Donc, je les admire, là, son équipe, qui sont à l'aise comme ça de dire des aussi grands mensonges. Moi, à leur place, je ne sais pas comment ils font pour vivre avec eux-mêmes.
Regarde, c'est une très bonne question. Mais en tout cas, cet exemple-là est quand même illustre très bien la relation houleuse que Trump et son équipe ont avec les médias. Donc, bon, ça, c'est une fausse vérité relativement anodine, si je puis dire, là, le fait que la foule soit grosse ou pas, ça n'a pas des conséquences extrêmes. Par contre, il y a d'autres déclarations qui peuvent avoir des portées beaucoup plus vastes et des conséquences beaucoup plus graves. C'est ici que les médias américains se retrouvent dans une drôle de posture, selon moi, parce que c'est un peu difficile. D'un côté, selon leur code déontologique et tout ça, il faut qu'ils rapportent de façon fidèle ce qui a été vu, dit ou fait, donc sans les modifier, sans les modeler, sans les adapter du tout. Mais de l'autre côté, toujours selon les valeurs et le code déontologique, il faut rapporter les propos. Ils veulent rapporter des propos, mais ils savent que c'est pertinemment faux, ou même raciste, ou sexiste, ou homophobe, ou que, enfin, je veux dire, c'est du contenu qui est dérangeant. Donc, ils sont comme pognés en deux chaises. Où est la limite là-dedans? Comment le ou la journaliste américaine trace la ligne, puis comment elle doit se comporter pour respecter ses valeurs et son code déontologique? Elle rapporte, elle rapporte pas, comment elle rapporte?
Oui.
C'est un peu difficile.
Puis tout ça dans un contexte médiatique assez particulier, parce que, bon, la presse est en difficulté financière, on
Exactement.
Le sait. Le journalisme d'enquête a beaucoup de difficultés à trouver du financement. Justement, récemment, le New York Times a annoncé qu'ils allaient vraiment vérifier et vraiment talonner l'administration Trump sur tout ce qu'elle fait. Mm-hmm. Puis le nombre d'abonnements du New York Times dans cette semaine-là a explosé, là.
Mais en même temps, les mensonges de la part des chefs d'État, là, je veux dire, c'est pas nouveau, là, dire que y a des bombes atomiques qui sont en train de se faire construire, donc, dans certains pays, donc on va les envahir. Plein de prétextes comme cela, sauf que c'est sûr que maintenant, ça atteint un degré qui est absolument, je veux dire, jamais vu. Ça atteint quelque chose... en fait, je me demande même pourquoi est-ce que c'est la stratégie, parce que
pourquoi ils
mentent parce que c'est des choses qui sont tout à fait anodines.
Oui.
Je veux dire, OK, il y a eu plus de gens à l'investiture de Barack Obama, mais écoute, c'est la vie. Je veux dire, t'as pas, c'est pas, en tout cas, c'est incompréhensible pour moi.
Oui, mais c'est mentir sur des choses qui sont très facilement vérifiables aussi. C'est pas comme, oh, il y a de la bombe atomique là-bas, on va faire à semblant qu'il l'a, on va y aller. Ça, je veux dire... À part que tu sois dans la défense nationale, t'as pas vraiment moyen de le confirmer. Mais des choses comme la grosseur de la foule ou des statistiques. Tout le long de sa campagne, il a menti sur des statistiques qui étaient super faciles d'accès.
Ou il a dit « j'ai jamais dit ça ».
Exactement.
Ben, regarde, on t'a enregistré.
Exactement. Donc, c'est un peu difficile. Donc, ça, la situation face à Donald Trump, donc, il affiche en plus une position qui est pour le moins réfractaire aux médias. Il le dit à plusieurs fois et de façon très virulente, qui était anti-média. Je vais le citer d'ailleurs. « Comme vous le savez, je suis actuellement en guerre contre les médias. Ils font partie des êtres humains les plus malhonnêtes de la planète. » Donc, c'est devant tout ça que les médias américains se retrouvent actuellement. Donc, cette fois-ci, je dirais pas c'est la faute aux médias, mais bonne chance aux médias. Parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin. Puis c'est ça, on leur souhaite bonne chance.
Pour les 4 prochaines années, oui. Ben nous aussi, c'est un sujet qu'on va suivre avec attention. Merci beaucoup, Frédéric. Oui. Donc, on va écouter maintenant la chanson Local de l'artiste Tycho sur son album Epoch Style Electropop. Vous écoutez toujours La Faute aux médias sur les ondes de choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Comme vous le savez, c'est pas facile. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, ces temps-ci, ça brasse beaucoup.
Émilien, même, tu m'en parlais tantôt, il y a un livre qui bat des records de vente, c'est ça?
Oui, il y a un livre assez populaire qui est enseigné dans beaucoup d'écoles. Même, il y en a certainement d'entre vous qui l'ont déjà lu dans des cours d'anglais au secondaire, par exemple.
Ou par plaisir personnel,
qui sait. Ou par plaisir personnel, ou par intérêt personnel. Ces gens-là dont je ne fais pas partie, j'ai honte de le dire ce soir, mais je ne l'ai pas lu. C'est le livre 1984. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1984, il y avait cette pub-là célèbre d'Apple avec un scénario assez drôle.
Je m'en rappelle très bien pour y être. Pour y avoir été.
Pour y avoir été, c'est ça.
Tu parais jeune, je trouve.
Donc, en 1984, quand on écoutait la télé avec un bon verre de vin, on a tous vu cette publicité-là très célèbre, où il y a une femme qui détruit un écran dans lequel il y a Big Brother qui s'adresse à la foule, qui est complètement obnubilée par l'écran. Puis, c'est une scène tout droit sortie de l'imaginaire de George Orwell, de son livre 1984. Puis, le slogan de la pub, c'est... Voici pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984, parce que c'est la sortie du Macintosh, c'est la sortie du nouvel ordinateur d'Apple. C'est l'ordinateur qui représente la réponse au conformisme et au fascisme, donc pas d'État totalitaire.
J'ai été chercher la publicité, ça ressemble à ça. Ici, on saute à la fin.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Donc, Orwell, quand il était en 1948 et qu'il a écrit son livre, il s'est juste trompé de 33 ans, parce que 1984, c'était pas en 1984 que c'est arrivé, c'était en 2017. Donc, permettez-moi la petite blague un peu poche. Mais, en effet, dans ce livre-là de 84, ce dont Frédéric nous a parlé tout à l'heure, on y parlait des faits alternatifs. Il y avait le novlangue. Le novlangue, c'était un instrument de pouvoir dans ce livre-là, qui était omniprésent. Puis c'était grâce à cette novlangue-là, c'était une nouvelle langue qui permettait de contrôler les citoyens en inversant, par exemple, des mots dans les phrases, en utilisant des termes alternatifs, comme les faits alternatifs. Donc, ce terme-là a été... inventé par Orwell.
Dans le livre aussi. Le nom des ministères, par exemple, change. Le ministère de l'amour, le ministère de la vérité ont totalement des noms trompeurs, si on peut dire ça.
C'est ça. Donc, toutes ces espèces de termes inventés, faits alternatifs qui ont été utilisés par l'administration de Trump dans la dernière semaine, ont... une conséquence assez incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont souvenus du livre 1984, puis sont tous allés le racheter, en racheter une copie. Donc, les ventes de ce livre-là ont explosé de 9500%.
Wow.
Dans la dernière semaine. Même les éditeurs sont en rupture de stock totale. Ils doivent commander d'autres impressions pour répondre à la demande. Donc, il y a quand même de l'espoir si les gens se précipitent sur ce livre-là. Puis juste par rapport à ce phénomène-là de se réfugier dans des livres comme ça très, très symboliques, on l'avait déjà vu, par exemple, quand il y a eu les attentats à Paris et à Saint-Denis en novembre 2015, les gens s'étaient précipités sur le livre d'Hemingway « Paris est une fête », un peu comme pour se détacher un peu de la situation puis essayer de vivre avec la nouvelle réalité. Donc, c'est quand même un phénomène assez intéressant de se réfugier comme ça dans la littérature. Donc, est-ce que la prise de pouvoir de Donald Trump veut dire qu'on se dirige vers une société de contrôle total comme dans le livre d'Orwell? Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, au-delà de la partisanerie même, trouvent que ce président-là est irrationnel et... juste parce qu'il est prêt aussi à s'aligner à peu près tout le monde et tout et n'importe quoi, juste pour des raisons totalement irrationnelles. Donc, ce que je me demande, c'est où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Il y a des gens, même des anciens partisans républicains, par exemple, cette semaine, on a appris qu'il y avait plusieurs diplomates états-uniens qui ont décidé de démissionner de leur poste. Donc, partout dans le monde, ils ont décidé de démissionner. Donc, ça, c'est assez important. On les appelle les senior US diplomats. C'était, dans le fond, les diplomates en chef dans plusieurs ambassades dans le monde qui étaient des fonctionnaires qui comprenaient vraiment comment ça fonctionnait. Donc ça, ça va être très, très problématique pour Trump d'être capable de trouver des gens qui comprennent un peu là, la
qui
réalité,
ouais.
La réalité outre-mer.
Mais vu comment il nomine les gens, c'est pas vraiment dans ses préoccupations, on dirait, de toute façon.
Il nomine tout le monde de façon tout à fait irrationnelle.
Exactement.
Il disait qu'il voulait se battre contre les intérêts de Wall Street. Il nomme le cabinet le plus riche de l'histoire des États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment spécial comme présidence. Puis il y a même beaucoup de gens qui, aux États-Unis, ont déjà commencé des démarches pour des démarches de destitution, l'impeachment. Mm. Donc, il y a des juristes constitutionnels qui ont déjà commencé des démarches pour le destituer. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il y a quand même de l'espoir. Donc, il y a aussi, du côté pessimiste un peu, il y a les scientifiques nucléaires qui ont décidé d'avancer l'aiguille sur l'horloge, le Doomsday Clock. Donc ça, c'est une horloge de la fin du monde. Donc, je vais juste pour faire un petit historique. En 1953, quand les États-Unis et l'Union soviétique testaient des bombes à hydrogène, l'aiguille était 2 minutes avant minuit, donc 2 minutes avant l'apocalypse nucléaire. Mmh. En 1968, la France et la Chine qui développaient des armes nucléaires, ça l'a fait aller à 7 minutes.
Okay.
Puis, quand la Corée du Nord a conduit des tests nucléaires il y a quelques années, c'est revenu à 5 minutes, donc on s'est rapproché de l'apocalypse nucléaire.
Mmh.
Puis là, on a encore avancé à 2 minutes et demie. Donc, on est à 2 minutes et demie sur cette horloge-là très symbolique de l'apocalypse nucléaire.
Mais bon, il faut en profiter.
Ouais, mais j'allais dire que ce qui est certain, c'est que, je sais pas, je donnerais pas mal de choses, moi, pour me transporter dans 4 ans pour voir qu'est-ce qui va se passer. Chose certaine, what a time to be alive, comme on dit, là.
C'est ça, dans les cours de communication et politique, ici à l'UQAM, on est plusieurs à être dans ce bac-là. Mais on nous dit que ça fait énormément peur, cette espèce d'incertitude-là, tant au niveau des relations internationales qu'au niveau communicationnel, qu'au niveau de la démocratie, point. Mais c'est super intéressant d'être des universitaires puis d'analyser la situation qui évolue ces temps-ci.
C'est difficile, c'est que c'est vraiment une incertitude totale parce qu'on n'a jamais vu ça. C'est vraiment complètement nouveau. On n'a jamais, dans la scène politique internationale, c'est un phénomène totalement nouveau. Donc, on ne peut pas se fier ni sur nos statistiques, ni sur notre expérience, ni parce que, je veux dire, il n'y a plus de repères qui tiennent.
Surtout pas sur les sondages.
Surtout pas sur les sondages. On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec Trump.
Ouais.
Plus rien n'est vrai. Changez vos conceptions de tout.
Rien ne va plus. Les
tout
jeux
est
sont
faux.
Faits.
Tout est faux. Donc, au final, je vais terminer avec un petit peu de légèreté. Mais il y a au moins un groupe politique qui est content dans tout ça. C'est les Anarchists for Donald Trump, les anarchistes pour Trump, dont le slogan était, pendant la campagne états-unienne, « Let the empire burn », laisser brûler l'empire. Donc, espérons que ça se réalise pas ou que ça se réalise pour certains d'entre nous. En tout cas, je vous laisse sur ces petites paroles. Puis, je sais que dans quelques instants, Camilla va nous remonter un peu plus le moral en nous parlant...
Je vais essayer.
Va essayer de nous remonter le moral en nous parlant des femmes qui ont manifesté cette semaine. Donc, Camilla Rodriguez-Cea, dernière chroniqueuse aujourd'hui, qui va nous parler, en fait, de la Marche mondiale des femmes. Et en fait, toi, tu as analysé un peu ce qui s'est passé dans le monde, parce qu'il y a eu plusieurs événements un peu partout. Et plus que jamais, tu penses que inauguration a rimé avec manifestation.
Effectivement, la Marche mondiale des femmes a réuni cette année 4,8 millions de manifestantes et de manifestants à travers le monde. Donc, il y avait plusieurs événements simultanés dans énormément de villes à travers le monde. L'événement principal était à Washington, là où 500 000 personnes se sont rassemblées. L'événement a débuté par la prise de parole de nombreuses personnalités et activistes féministes. On peut dénommer parmi elles America Ferreira, Scarlett Johansson, Iyasa Shabazz, la fille de Malcolm X. Il y avait aussi la fille de Mohamed Ali et Michael Moore aussi. Mais moi, l'allocution qui a attiré mon attention, c'est celle d'Angela Davis. Je vais vous lire sa conclusion. Donc, Les prochains 1459 jours de l'administration Trump seront 1459 jours de résistance. De résistance à la base, de résistance dans les salles de classe, de résistance au travail, de résistance dans notre art et dans notre musique. Ceci n'est que le commencement, et comme l'a dit l'inimitable Ella Baker, nous qui croyons à la liberté ne pouvons nous reposer jusqu'à ce qu'elle arrive.
Donc, un appel à la résistance qui vient du cœur
ouais.
et qui est justifié. Mais Camilla, 500 000 personnes qui se sont rassemblées à Washington pour la marche des femmes, c'est davantage même que, je pense, au discours d'inauguration de Trump.
C'est énorme.
Ouais, et c'était pas un hasard. À la base, la Marche mondiale des femmes se veut être une organisation et un événement qui a à cœur les luttes féministes intersectionnelles, c'est-à-dire les droits reproducteurs et la lutte contre la violence sexuelle et de genre, mais aussi le droit des travailleuses, des immigrantes, des personnes racisées, des membres de la communauté LGBT+, plus des personnes handicapées. Bon, la liste est longue, mais on peut dire, disons, il y a des critiques qui sont faites face à cette marche. Est-ce qu'elle est vraiment intersectionnelle? Est-ce qu'elle rassemble vraiment beaucoup, vraiment tout le monde? Mais c'est clair que les personnes qui étaient là sont celles sur qui Trump a le plus craché, je dirais. Les immigrants, les bad hombres mexicains, les musulmans, les femmes. Faut-il rappeler qu'on parle de quelqu'un qui s'est vanté d'avoir agressé sexuellement des femmes et qui est accusé de ce même fait par de nombreuses femmes.
Oui, je pense que même récemment, il y en a une qui a porté plainte officiellement.
Oui, je pense que c'est contre diffamation, par contre.
Ah, possible.
Pour diffamation. Mm. Il y a les Afro-Américaines, la liste est infinie, et donc c'est très facile de comprendre que celles-là même que l'arrivée de Trump met en péril se mobilisent pour qu'on les oublie pas. Puis je vais vous faire une petite confidence, là. Personnellement, je suis incapable d'entendre son nom, Donald Trump. Ça me donne envie de vomir. J'ai plus envie d'en parler. J'ai plus envie d'écouter ce qu'on dit à son sujet. Et je dis ça à vous, nos auditeurs. J'espère que vous n'avez pas le même désespoir que moi. Mais la liste de toutes les choses les plus aberrantes, les unes que les autres, qu'il a dit est tellement grande que, sincèrement, j'ai cessé de les compter quelque part au mois de septembre. pour moi, oui. C'est un luxe de pouvoir lâcher prise sur les positions de cet homme-là parce que mes conditions à vie sont pas directement liées à ses décisions. Je pense qu'elles vont être affectées, mais elles vont pas être directement liées. Puis pour les marches de pour les femmes de la marche et les millions d'autres États-Unis, leurs conditions de vie à eux sont directement reliées au climat social et aux politiques sociales du gouvernement. Par exemple, c'est connu, Donald Trump encourage par son discours des groupes d'extrême droite, des groupes racistes, et on s'entend. Ces groupes-là ont tendance à faire preuve de violence envers les minorités. Donc au niveau le plus simple, le plus physique possible, les personnes en minorité vont avoir mal. Autre exemple, Trump et l'Obamacare qui veut supprimer, donc pour plusieurs personnes, la suppression de cette assurance maladie-là signifie la fin de soins essentiels. De nombreuses femmes se sont mobilisées à la Marche mondiale des femmes pour la première fois, puis c'est vraiment beau à voir, mais en même temps, j'ai l'impression que ça vient renforcer cette idée de deux Amériques, de deux États-Unis, où est-ce que, d'un côté, on a les travailleurs blancs de classe, pas très élevés, les gens des milieux plutôt ruraux, et puis les autres qui ont pas, disons, dont les conditions de vie sont pas meilleures du tout que celles des travailleurs, mais qui vont être affectés directement par les politiques racistes, sexistes, homophobes, peu importe, de Donald Trump. Donc, oui. Lorsqu'elles se sont rassemblées, ces femmes-là, à la Marche mondiale des femmes, lorsqu'elles se sont mobilisées, puis lorsqu'elles se font entendre, elles envoient un message au président, elles leur disent « Nous sommes là, nous ne nous laisserons pas faire, nous répliquerons et nous vous surveillerons. Nous n'avons pas le luxe de détourner le regard. »
En terminant rapidement, Camilla, tu veux aussi mentionner qu'il y a eu une initiative qui a utilisé un journal pour fournir du matériel aux manifestantes, c'est ça?
Oui, j'imagine que si je vous parle de la campagne Hope de Barack Obama qui avait été faite par Shepherd Fairy, dans laquelle on voyait le futur président regardant au loin dans une photo découpée en bleu et rouge. Ça vous dit quelque chose?
Oui, on a même tous mis nos propres visages sur Facebook avec le même graphique.
Exact. Donc, le même artiste, cette année, a fait une nouvelle campagne appelée We the People, spécialement pour la manifestation de la Marche des femmes, dans laquelle on voyait entre autres le portrait de trois femmes. Une femme voilée, une femme afro-américaine et une femme latino-américaine, dépeintes un peu à la manière d'Obama, mais pas exactement, en bleu et en rouge, avec des accessoires patriotiques sous lesquels on pouvait lire « We the people defend dignity are greater than fear and protect each other ». Pour faire court, il a fait une campagne de sociofinancement, il a ramassé plus $1 million sur Kickstarter et avec cet argent-là, tenez-vous bien, il a acheté une page publicitaire en couleur au complet du Washington Post pour permettre aux gens d'aller acheter le journal et d'avoir une affiche en grand format pour aller manifester.
Incroyable.
Assez, oui.
Donc, un appel à la mobilisation. Merci beaucoup, Camilla.
Ça fait plaisir.
Je répète encore, vous écoutez la Photomédia sur les ondes de choc.ca. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, on va vous laisser en chanson avec Givre de l'artiste Littoral.